Alors, dimanche de l'Église persécutée, donc le 6 novembre, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas qu'un jour dans l'année que les gens souffrent, dans la persécution, que nos frères et sœurs souffrent, mais c'est donc un dimanche qui est proposé par l'association donc Porte Ouverte pour penser particulièrement et prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde à cause de leur foi. Et puis c'est aussi une occasion peut-être d'avoir une pensée sur ce qu'est l'Église universelle, parce que en parlant de nos frères et sœurs dans le monde entier, eh bien on se rend peut-être davantage compte de ce qu'est l'Église et qu'on est unis. On n'est pas seul ici à Figeac. Bien sûr, on a nos frères et sœurs dans des assemblées proches. Mais il faut qu'on pense aussi un petit peu plus loin, donc jusqu'aux extrémités de la terre, puisque le Seigneur, c'est la mission qu'il a donnée à ses disciples, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des chrétiens, des frères et sœurs qui sont aux extrémités de la terre, mais qui ne vivent pas forcément comme nous aujourd'hui, avec le privilège de pouvoir se réunir, de pouvoir chanter, de pouvoir prier, de pouvoir s'encourager mutuellement, et même de manger ensemble. Voilà, il y a des endroits où c'est pas possible de le faire. Et donc, le Seigneur, je pense, dans ces moments-là, dans ces occasions-là, veut nous donner de pouvoir vraiment nous rendre compte que nous sommes une famille. Et c'est un avant-goût aussi de ce que sera le ciel, parce que nous serons tous ensemble à louer Dieu. Et donc, déjà, nous pouvons nous sentir unis avec eux, avec ceux qui souffrent, que ce soit moralement ou physiquement, hein. Pour la plupart, n'ont pas la seule possibilité donc de se réunir comme nous. Alors, Porte Ouverte, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est une association qui a été fondée il y a plus de 65 ans par un Hollandais, un frère André, et il a eu cet appel d'aller encourager, fortifier les chrétiens dans le monde qui sont seuls, qui sont isolés, et en particulier en leur apportant la parole de Dieu. Et donc il a amené des Bibles dans bien des endroits. On aura juste tout à l'heure une petite vidéo qui le présente. Et il est décédé il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de septembre. Il avait 94 ans. Et il a toujours été suivi cet appel de Dieu qu'il a reçu, donc il y avait bien des années, pour apporter des Bibles là où c'était pas possible de le faire. Et aujourd'hui, Porte Ouverte donc travaille dans à peu près 70 pays. Et tous les ans, ils éditent un rapport sur la situation des chrétiens dans le monde, un index donc que vous avez même voilà, une photo sur de la carte sur la vitre. Avec bien les pays où ce qui est en orange, c'est la persécution qui est forte. Et dans les pays en rouge, c'est la persécution vraiment très forte. C'est-à-dire que si vous êtes pris comme chrétien, eh bien, vous êtes enfermé ou vous êtes mis à mort. Hein. Donc c'est quand même très. Il y a énormément de pays quand même où ça. Et on s'aperçoit que ça c'est de plus en plus, quoi. Ou que la persécution est de plus en plus forte. Hein. Les pays. Où la persécution augmente très fortement cette dernière année. Il y a en premier le Myanmar, hein, et puis en second le Qatar. Et vous avez peut-être entendu parler du Qatar, on va y jouer, faire du foot. Mais c'est un pays extrêmement violent contre les chrétiens. Voilà. Mais il y a tellement de finances par derrière tout ça, et puis de lobbies et autres, hein, qui. Voilà, on va faire des choses comme ça là-bas. Donc, jusqu'à présent, enfin les dernières années, même bien les dernières années, c'était la Corée du Nord qui était en tête des pays où la persécution était la plus forte, et ça l'est toujours. Mais maintenant, c'est l'Afghanistan, hein, qui est passé devant. Et on aura tout à l'heure le témoignage, mais simplement oral, parce qu'on ne peut pas l'avoir en visio. Oral d'une personne qui est en Afghanistan, les chrétiens en Afghanistan doivent vraiment se cacher. Comme ça a pu être le cas aussi, même ici dans le Quercy, dans le sud du département, pendant la réforme, hein, avec les guerres de religion, où les Huguenots devaient se cacher aussi pour ne pas être surpris et envoyés aux galères ou même tués. Voilà. Donc je voudrais maintenant... faire une petite méditation sur un passage de l'Écriture qui se trouve dans la première épître de Pierre, hein, si vous avez. Première épître de Pierre, au premier chapitre, les versets 1 à 9. Et comme Morel, il a une grande voix, c'est bien, je lui ai demandé de lire les versets 1 à 9 de cette première épître de Pierre.
Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Cela, c'est qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi.
Merci. Donc l'auteur de cette lettre, c'est l'apôtre Pierre. Et on se souvient bien que quand le Seigneur Jésus a été arrêté, Pierre l'a suivi un moment. Et puis Pierre a eu peur. Et il a renié son Seigneur par trois fois. Et puis ensuite, Pierre a été restauré, hein, avec le Seigneur. Et à la fin de l'évangile de Jean, Jésus va se révéler à lui, et va lui révéler en particulier la manière dont Pierre va aller mourir par la persécution. Et à la fin de cette révélation, il lui dit simplement « Suis-moi ». Et Pierre, connaissant aussi donc ce qui l'attend, eh bien, il va suivre le Seigneur Jésus jusqu'au bout. Et la tradition donc rapporte que Pierre a été crucifié la tête en bas à Rome. Donc cette lettre a été écrite dans un contexte de persécution, puisque dans tout l'Empire romain il y avait la persécution des chrétiens, et elle est envoyée à d'autres chrétiens d'Asie mineure, donc c'est l'actuelle Turquie, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec la Cappadoce notamment. Et cette lettre a été envoyée par Pierre pour les exhorter, pour les encourager à tenir ferme dans la foi, malgré la persécution, malgré les épreuves auxquelles ces chrétiens sont soumis. Pierre vit les mêmes souffrances que ces chrétiens-là, et donc il est à même de pouvoir les encourager, de pouvoir leur donner des conseils, parce qu'il sait ce que signifie souffrir de la persécution. Et dans ce chapitre, Pierre ne leur apporte pas une fausse consolation. Il ne va pas les plaindre particulièrement de leur sort, mais il va donner les raisons pour lesquelles ils souffrent. Et la raison principale pourquoi ces chrétiens souffrent, c'est parce qu'ils ont suivi leur maître et parce qu'ils aiment leur Seigneur. Et Jésus nous avertit aussi. Il nous a dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Alors c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on ne connaît pas la persécution de cette façon-là. Il y a des choses qui nous font souffrir, bien évidemment. Il y a le fait que de l'indifférence. Nice tout à l'heure parlait que les gens sont ouverts quand on leur parle. Ils sont attentifs, ils écoutent. Moi, j'ai à s'insérer un local d'exposition, hein, c'est le musée de la Bible, et les gens passent, mais sans s'arrêter, mais même ils détournent le regard. Et si on essaye de leur parler, ils montrent vraiment une grande indifférence. Ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas connaître le Seigneur. Et pourtant, ils sont en recherche de bonheur, comme tout le monde, ou ils sont en recherche de choses qui viennent remplir leur cœur. Mais c'est pas là qu'ils vont le chercher. C'est pas auprès de Dieu qu'ils vont le chercher. Ils vont le chercher dans, par exemple, en grattant des tickets pour gagner des sous. Voilà. Mais voilà, on voit une grande indifférence. Et ça nous fait souffrir. C'est pas une persécution. Il y a aussi l'immoralité qui gagne énormément de terrain, de plus en plus. Et ça nous fait souffrir. Mais on ne nous empêche pas de nous réunir. Ce matin, nous sommes ensemble. On ne nous enlève pas nos enfants. On ne nous jette pas en prison. On ne nous met pas à mort pour notre foi. Mais peut-être qu'un jour, nous aurons aussi à nous y préparer. Hein, Dieu le sait. Alors, Pierre rappelle d'abord à ces chrétiens que leur maison n'est pas sur terre, n'est pas ici-bas, mais qu'elle est auprès de Dieu. Et que rien ne peut l'atteindre. On l'a lu tout à l'heure, que rien ne peut nous atteindre si on est au Seigneur aussi. Être chrétien, c'est pas s'installer dans un confort, on pourrait dire, le plus possible confortablement dans le monde. C'est accepter de n'être qu'un résident, d'un résident temporaire sur cette terre. Et donc, faut être aussi prêt à passer par l'épreuve du feu, si c'est ce qui nous attend, hein, s'il le faut. Et l'apôtre Pierre donc les invite à regarder à celui qui les a sauvés, celui qui les a mis à part dans son plan éternel depuis la fondation du monde. Il dit que Dieu nous avait élus pour être ses enfants. Et donc, il est tout à fait digne de nos louanges, de notre adoration. Hein, c'est ce que dit Pierre, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Il le dit au verset 3. Et puis, il cite ensuite trois bénédictions qui découlent de notre foi en Dieu. La première, c'est qu'il nous a donné la vie éternelle. Alors, la vie présente, elle a une limite, mais nous avons la vie éternelle. Et ça, c'est grandiose, si on pense à cela, que nous avons une vie éternelle avec le Seigneur. Nous avons une espérance qui est vivante et qui nous fait vivre, même dans le temps présent. Cette espérance, elle nous fait regarder à ce qui nous attend, à ce qui est au-dessus de nous. Et puis Dieu nous réserve un héritage dans le ciel. Il nous prépare une place. Alors, il est le plus à même de nous préparer une place et qu'elle soit la plus belle possible. Hein, je ne sais pas comment vous vivez ici sur Terre. On n'a pas encore allumé le chauffage chez nous, mais hier soir, il faisait frais quand même. C'était 15 degrés. Donc, on va peut-être l'allumer maintenant, mais dans le ciel, il n'y a pas besoin de chauffage de toute façon. Hein. Et puis, on sera avec le Seigneur, donc ce sera une place qui sera merveilleuse. Donc, avant de parler de l'épreuve, Pierre avait besoin de rappeler à ces chrétiens d'Asie mineure pour quelles raisons ils devaient être prêts à souffrir et à supporter cette épreuve, pour tout ce qui les attend dans l'éternité. Et parce que leur persévérance dans la foi, eh bien, c'est aussi une preuve de leur amour pour Dieu, de leur attachement au Seigneur. Les premiers versets donc nous rappelaient que notre vie, notre salut viennent de Dieu. Et Pierre conclut ainsi donc en disant « Voici ce qui fait notre joie ». Mais sa phrase ne se termine pas justement par cette joie. Il dit, il ajoute « Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves. » Au verset 6. Donc Pierre souligne par ce « puisqu'il le faut » que c'est quelque chose d'inévitable. C'était une nécessité. Et c'est aussi ce qu'écrit l'apôtre Paul à Timothée quand il dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc ce n'est pas quelque chose qui est une option, mais c'est une réalité, même si c'est à différents niveaux de persécution, bien sûr, ou de souffrance. Mais il y a aussi dans ce verset 6, une note d'espérance. Il est dit « pour un peu de temps ». Ça veut dire que Dieu va rester toujours aux commandes et c'est lui qui fixe les limites de l'épreuve. Et enfin, Pierre va parler du but de cette épreuve. C'est par elle qu'est manifestée la valeur de notre foi, de notre consécration, de notre amour pour le Seigneur. C'est un peu comme quand on soumet, c'est ce qui est dit ici, l'exemple qui est pris ici, quand on soumet un métal au feu pour améliorer, pour mesurer la qualité de l'alliage. Hein? Ce n'est pas quand tout va bien qu'on peut mesurer vraiment la valeur de notre foi. Mais c'est quand les choses vont mal. Ça peut être aussi dans la maladie, ça peut être dans plein de soucis que nous pouvons rencontrer, épreuve du deuil. Tout cela, ça va nous permettre de mesurer la valeur vraiment de notre foi. Est-ce que nous sommes vraiment attachés au Seigneur? Est-ce que nous lui faisons vraiment confiance dans nos épreuves? Et Pierre donc compare la persécution des chrétiens comme de l'or que l'on fait passer à travers du feu. Vous savez, pour supprimer toutes les impuretés, on va le monter à plus de 1000 degrés. Hein, c'est une image très forte, mais pour certains chrétiens qui vivent la persécution, cette image leur parle parce qu'ils sont vraiment éprouvés par le feu. Et on connaît bien le livre de Job, toutes les épreuves par lesquelles Job est passé, mais il a conservé toujours la foi en son Dieu. Et c'est au chapitre 23 qu'il dit « Dieu sait bien quelle voie j'ai suivi, qu'il me passe au creuset, hein, donc comme l'or, j'en sortirai pur comme l'or ». Alors, nous n'aurons certainement pas tous à subir des épreuves de Job, ou même de nos frères et sœurs, comme on parle aujourd'hui d'Afghanistan. Mais ces exemples sont là pour nous faire comprendre ce que signifie réellement suivre Jésus, être disciple du Christ. Et il nous encourage, en tout cas, ces exemples, dans les diverses épreuves auxquelles nous sommes nous-mêmes confrontés. Et après nous avoir exhortés à louer le Seigneur dans les premiers versets, donc, puis ensuite avoir montré quelle était la nécessité de la persécution pour faire paraître la valeur vraiment de notre foi en Dieu, eh bien Pierre va nous ramener à la louange. Il dit « La valeur éprouvée de notre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu ? Vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. » La foi a un prix qui nous sera donné au terme, c'est la vie éternelle, le salut de notre âme. Alors quand on parle de joie indescriptible et de joie glorieuse, quand on vit dans ces temps difficile dans ces épreuves, c'est compliqué de le dire et ça nous paraît complètement impossible de nous réjouir de cette joie glorieuse lorsqu'on traverse l'épreuve. Mais les témoignages que nous recevons de ces frères et sœurs éprouvés, de nos bien-aimés, attestent que l'expérience qu'ils vivent, eh bien, a eu vraiment ce résultat-là. Amener à la joie dans le Seigneur. Parce que le Seigneur a manifesté sa fidélité dans l'épreuve, il leur a montré leur a donné la force de supporter les flammes de ce feu qui les a torturés, et puis il les a consolés, il les a relevés après leur souffrance. Leur foi a été éprouvée, et comme dit Pierre, pour Dieu, elle est maintenant plus précieuse que l'or. Dieu voit ses frères et sœurs comme des en or, quoi, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de magnifique. Et donc, je voudrais terminer par deux vidéos. La première vidéo qui est un témoignage donc de frère André, qui encourage les chrétiens, notamment en Occident, à être ferme et à se rendre compte de ce que c'est que suivre Jésus-Christ, pour un engagement qui est vraiment fort pour le suivre. Et puis ensuite, ce sera une deuxième vidéo avec des témoignages donc de ces personnes qui sont dans différents pays que l'on a vu sur la carte tout à l'heure et qui donnent aussi des témoignages de ce qu'ils ont vécu et aussi comment le Seigneur les a relevés. Voilà. Je vais me passer.
Portes ouvertes a démarré en 1955 quand Frère André, un jeune chrétien, a commencé à passer des Bibles en contrebande vers l'Europe de l'Est. Pour Frère André, toute personne devrait avoir la liberté de connaître Jésus où qu'elle vive.
God spoke to me again through His Word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contact, no language. But something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how?
Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développée dans plus de 60 pays, apportant des Bibles, des formations, priant et soutenant matériellement l'Église persécutée. En 60 ans, nous avons accompli de nombreux projets, grands et petits. Et à chaque fois, nous avons vu Dieu à l'œuvre. En 1981, nous avons réussi à livrer en pleine nuit 1 million de Bibles sur une plage de Chine. Quelques années après, en 1989, nous avons transporté 1 million de Nouveaux Testaments en Russie. Plus récemment, nous avons aidé des milliers de réfugiés chrétiens déplacés par les conflits en Irak et en Syrie et organisé des campagnes de prière et de plaidoyer pour chacun de ces pays. Nous sommes également aux côtés des chrétiens du nord du Nigeria, où le groupe extrémiste Boko Haram attaque les églises. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ces pays et dans bien d'autres encore. Dans le monde, 215 millions de chrétiens sont persécutés, discriminés, voire assassinés pour leur foi en Jésus. C'est une réalité quotidienne pour nos frères et sœurs dans de nombreux pays. Comme nous le montre l'actualité récente, la situation des chrétiens persécutés ne fait qu'empirer. Portes Ouvertes continue à soutenir l'Église persécutée dans les pays les plus hostiles à l'Évangile. Nous sommes sur le front, avec ceux qui souffrent pour leur foi, afin d'affermir l'Église dans le monde entier. Chaque année, nous livrons plus de 2 millions de Bibles et de littérature chrétienne. Nous aidons plus de 200 000 chrétiens dans le besoin. Nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. Nous rendons publiques les informations et témoignages de l'Église persécutée pour que le message de la bonne nouvelle de Christ persiste dans les régions les plus fermées et les plus hostiles à l'Évangile.
I think we in the West, and this is a personal confession, I think we are cowards. We want a personal profit come first. And if that is at risk, we don't do anything. We ought to become people of guts and courage and strong convictions. And don't count our life dear unto ourselves if only we can fulfill the high calling of God on our lives. That's what I'm after. That's what I want the young people to do.
Tenons-nous aux côtés de l'Église persécutée.
लोगों की छोटी छोटी बच्चियों से शादियां कर रहे हैं वही उसे कत्ल कर देते हैं जैसे उनका खानदान पता नहीं किसने ये हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे ऐसे वक्त में मैं सोच कर भी आवाज ताकता हो जाती हूँ ऐ मेरे रब 3 रोज से एक ही दाल की कटोरी पे मेरा पूरा खानदान गुजारा कर रहा है डर लगता है कि उन लोगों के आने से पहले कहीं भूख ही ना हमें मार दे बेचारे का क्या मुस्तकबिल होगा ना अपने मजहब को समझ सकेगा ना औरत की इज्जत को हाय वो छोटा सा बच्चा उसके मुस्तकबिल में अभी बहुत कुछ पड़ा है उसी ने हमें bishop mushkile bardasht karne ko bulaya hai jab unhone masih ko nahi chhoda to hame kaise chhodenge
là à ce moment là la température était à son maximum. Je vous dis la vérité, plus que le manque de nourriture et d'eau, le plus grand défi était le climat. C'était un désert comme le Sahara, difficile d'y survivre. Pendant toutes ces années, le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Je n'avais aucun autre chef d'accusation. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette pièce étroite. Il n'y avait pas de fenêtre. Je ne savais pas quand le soleil se levait ou se couchait, ni l'heure qu'il était. On se faisait appeler au moment où on s'y attendait le moins, et on se faisait battre. Puis on m'a emmené dans un autre camp de prisonniers appelé Mitter. C'est un endroit extrêmement chaud. Il y fait 38 à 40 degrés. Je devais ramasser du bois, des pierres, travailler à la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Par tous les moyens possibles, ils essaient d'épuiser votre corps, votre esprit et votre santé. La seule chose qu'ils font est de vous menacer. Ils vous demandent de renier votre foi et de la haïr. Honnêtement, la tentation a été très difficile. C'était extrêmement dur de répondre à cette demande. Cependant, avec l'aide de Dieu, nous avons persévéré et dit non, nous avons refusé. Dans une certaine mesure, notre refus a prolongé notre séjour en prison. Si nous avions dit oui, ils nous auraient libérés plus tôt. Et puis, ils ont fini par nous libérer. Ils nous ont avertis de ne pas nous rendre dans les églises des mouvements évangéliques ou pentecôtistes. Ils ont dit, si on vous trouve à nouveau dans une de ces églises, vous serez tués. Mais jusqu'à présent, par la grâce et l'aide de Dieu, nous continuons de nous rassembler clandestinement. Nous prêchons, nous servons, nous baptisons les nouveaux venus et nous étendons le royaume de Dieu. La douleur que vous subissez vous traumatise. Toutes vos pensées sont anxieuses. C'est ça la vie en prison. Quand nous étions dans cette souffrance, nous cherchions vraiment la face de Dieu. Nous prions. Parmi les quelques moments heureux de mon séjour en prison, il y a eu ceux où j'ai parlé à des frères qui ont accepté le Seigneur. Il y a même eu des gardes qui ont accepté le Christ au cours des conversations que nous avons eues. Ce sont mes meilleurs moments. C'est pour le Christ que je vis. Je le sers encore plus depuis ma libération. Quand je vois la puissance et la grâce que Dieu m'a donnée après, c'est encore mieux qu'avant la prison. Oui, l'Église grandit, malgré les persécutions, et bien que les dirigeants de l'Église soient emprisonnés. Elle poursuit sa mission. La persécution n'a pas fait perdre à l'Église sa puissance. L'Église ne sera pas fermée. Gloire à Dieu. La lumière de l'Église brille, son goût devient bon comme le sel. Au début, beaucoup disaient des choses négatives sur nous, les chrétiens. Mais quand les gens ont comparé ce qu'ils avaient entendu sur nous et ce que nous sommes réellement, ils ont vu que les accusations n'étaient pas vraies. Ils voient que nous sommes de vrais croyants. Ils voient la pureté de l'Évangile en nous.
Dieu a permis ça, mais je sais qu'étrangement, ça a renforcé notre foi.
La persécution affermit la foi. Dans l'épreuve, ta foi se construit.
Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi à ébranler ma foi. Ils ont menacé de me tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu chasser nos enfants, mais pourtant, je continue de croire.
Honnêtement, quand ces choses sont arrivées, la mort de mon mari et l'attaque de Boko Haram, je me suis rapprochée de Dieu. Je dépendais totalement de Dieu. Je ne me suis jamais éloignée de lui.
Je me suis fortement accrochée à Dieu. Il est devenu un père, une mère et un mari pour moi. Le désir de Dieu est que notre foi se renforce à travers cette épreuve. Notre foi, la mienne et celle de ma famille, est plus forte maintenant qu'elle ne l'était auparavant. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul.
Alors, nos frères et sœurs, on a vu plusieurs exemples ici, notamment en Afghanistan. Ils n'ont bien sûr aucune possibilité de se réunir et ils savent que si on découvre qu'ils sont chrétiens, donc ils sont, l'amour est assuré, hein, pour eux en tout cas. Il n'y a pas possibilité aussi pour nous d'aller à leur rencontre, de rentrer dans le pays pour aller les voir, pour les encourager, pour les visiter. Mais il y a un moyen qui nous a été donné pour les visiter, c'est la prière. Et c'est frère André justement qui a écrit ceci, il a dit « Il n'y a aucune frontière, aucune prison, aucune porte qui soit fermée lorsque nous prions. » Et donc, on peut passer un temps pour prier vraiment pour ses frères et sœurs. On a eu quelques exemples, et puis ce que le Seigneur nous met sur le cœur aussi. Prier qu'on puisse aussi pour nous-mêmes, comme le disait frère André, avoir le courage. Parce qu'on a besoin d'être préparé aussi par rapport à ces choses-là. Demander que notre foi soit vraiment ferme et savoir ce que signifie suivre Jésus-Christ. Ça peut être, pour nous en tout cas, des peurs que l'on a lorsque l'on doit témoigner, lorsque les occasions se présentent. On a peur de dire qu'on est chrétien, ou on a peur de qu'on se moque de nous, qu'on nous rejette. Que le Seigneur nous donne aussi le courage de pouvoir témoigner quand il nous donne ces occasions-là. Voilà.